Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors, au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Framont. Bonjour Nicolas.
Bonjour Eugénie.
Vous êtes donc, les auditeurs de Cause Commune vous connaissent maintenant, mais je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef de Frustration Magazine, vous êtes sociologue et auteur de plusieurs ouvrages, on avait parlé sur cette antenne de Parasite, et puis vous ne détestez pas le lundi, mais vous détestez je ne sais plus quoi. C'était aux éditions des Liens qui Libèrent et ça parlait des conditions de travail des salariés et dans ce monde néolibéral. On va encore parler de ce monde néolibéral avec vous, avec la sortie de votre dernier livre en date, Saint Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme. Alors, c'est un livre qui inaugure une collection Frustration, c'est ça ?
Exactement, donc avec Frustration Magazine, on co-dirige tous ensemble une collection publiée aux Liens qui Libèrent. Donc l'objectif, c'est de faire des livres à la fois qui portent une critique radicale, systémique du capitalisme et de ses formes de domination, mais qui se lisent comme des romans, quoi. C'est-à-dire des livres qui se lisent très bien, qui soient très clairs. Ça ne veut pas dire qu'ils seront simplistes, ça veut juste dire qu'ils seront lisibles et agréables, quoi.
Voilà, avec une couverture assez déroutante et engageante à la fois, puisque il est question d'une icône sur la couverture. Alors cette icône, c'est Luigi Mangione, qui est devenu une figure virale aux États-Unis et aussi partout dans le monde après le 4 décembre 2024, où il est présumé innocent, vous ne cessez de le répéter dans le livre. Effectivement, je crois qu'il plaide non coupable. Il a été accusé d'avoir assassiné Brian Thompson, donc PDG de l'assurance de santé United Healthcare, donc une assurance privée de santé aux États-Unis. Donc ce PDG a été assassiné en pleine rue à New York par Luigi Mangione, qui était masqué. Il a été donc démasqué et sa photo, cet homme est selon les canons habituels considéré comme très beau. Il est passé un petit peu sur tous les réseaux sociaux et surtout il a été transformé en icône parce que cet homme très beau a réparer, en tout cas c'est l'avis de beaucoup de gens, une forme d'injustice puisque les assurances de santé aux États-Unis tuent, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas accès au remboursement de soins vitaux à des dizaines de milliers de personnes qui perdent la vie, donc de manière silencieuse, n'étant pas considérées comme de vraies personnes en fait. Ça c'est une des thèses c'est ce que vous démontrez dans ce livre qui commence justement par la description de ce fait divers qui n'en est pas un, qui est un acte politique et du système de santé américain vers lequel la France a l'air de tendre un petit peu. En tout cas, il y a la tentation de financiariser de plus en plus les remboursements de la santé en France. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, Nicolas, pourquoi vous avez décidé de vous emparer de cette figure devenue iconique ?
Oui, parce que d'abord, l'acte en lui-même, qu'on en connaisse ou pas l'auteur, il semble être caractérisé politiquement et en fait surtout il présente quelque chose d'assez inédit dans l'ordre capitaliste, c'est qu'un responsable efface à ses actes de façon assez tragique, mais subit les conséquences de ses actes. Et le principe du capitalisme et de tous les systèmes de domination, c'est que ceux qui sont, comme on dit, aux responsabilités, sont en fait irresponsables, sont mis dans des irresponsabilités. C'est-à-dire que ce sont des gens décisionnaires, mais ils ne subiront jamais les conséquences de leurs actes. Donc par exemple, vous détruisez un système de santé, tout en sachant que pour vous et vos proches, il existe un réseau de cliniques privées, d'assurances, et que vous êtes suffisamment riche pour ne pas en subir les conséquences. C'est ce que ressentent, on va dire, les décideurs politiques français, par exemple, en ce moment. Mmh. Et dans le cas de Brian Thompson, c'est quelqu'un qui a contribué, parce que sous son mandat, le nombre de refus de prise en charge de soins pour ses assurés a considérablement augmenté. Ça a été mis en place sous son mandat, donc c'est des décisions qui ont été prises pour faire en sorte, de façon cynique mais complètement assumée, que l'assurance ait moins à prendre en charge de soins, Bah, concrètement, en faisant en sorte que les gens multiplient les erreurs quand ils font leurs demandes, qu'on puisse leur reprocher leurs conditions de vie, leurs conditions de santé, pour pouvoir leur dire, bah, écoutez, non, on n'a pas à prendre en charge ça, comme le ferait n'importe quel assureur auto ou assureur logement en France, par exemple. Et nous, on n'a pas idée de que ça puisse s'appliquer aussi à la santé. Et donc, en fait, ce monsieur, il est placé en situation d'irresponsabilité au sens où il va être célébré pour ses résultats financiers, mais jamais blâmé pour le nombre de morts que sa politique entraîne, puisqu'aux États-Unis, on estime à 50 000 par an le nombre de personnes qui meurent faute de soins, alors même que on est dans le pays le plus riche du monde. Donc il contribue à ça, mais jamais, quelque part, on lui avait envoyé ça en pleine face, quoi. Jamais, sans doute, dans sa vie, il croisait des gens qui subissaient des refus de soins. Parce que on sait que de nos jours, les riches et les pauvres ne vivent plus au même endroit. Et là, d'un coup, il a été confronté très durement, du coup, hein, je pense que très cruellement, à ses décisions. Et ça, c'est une anomalie dans la machine capitaliste. C'est pas censé se passer comme ça. Et c'est pour ça que cet acte, il a fait très peur à la classe dirigeante américaine, je pense mondiale. Parce que si on se met à s'en prendre physiquement aux gens qui nous oppressent, alors la classe bourgeoise, elle est de nouveau menacée. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce fait divers qui est en fait un acte politique. C'est parce qu'il est une anomalie. Ça ne veut pas dire que c'est un fait social au sens de, par exemple, Luigi Mangione, si c'est lui qui a fait le coup, aurait inspiré des dizaines, des centaines d'autres personnes. C'est apparemment pas le cas. Mais pour moi, c'est plus, en tout cas, c'est quelque chose qui interpelle. C'est pour ça que sa figure est aussi populaire. C'est pas simplement parce qu'il a des caractéristiques physiques. C'est aussi que son acte en lui-même, il choque, il interpelle. Et puis, il suscite de l'attirance. Et cette attirance, c'est finalement une attirance qui suscite et qui ressuscite un questionnement un peu millénaire qui est comment peut-on faire face aux gens qui nous oppriment? Est-ce qu'il faut plutôt dialoguer? Est-ce qu'il faut plutôt négocier? Est-ce qu'il faut hausser le ton? Est-ce qu'il faut en venir aux mains? Et ça, c'est une question fondamentale qui a traversé le mouvement ouvrier et qui le traverse encore. Et cette question-là, elle m'a toujours intéressé. Donc, quelque part, l'assassinat de Brian Thompson, c'était à la fois un acte très intéressant, mais aussi un prétexte pour remettre ce sujet sur le devant de la scène. Et puis, ça fait écho aussi à l'actualité française.
Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez choisi de publier ce livre à quelques semaines, je crois, enfin un peu de temps avant le début du procès de ce fameux Luigi. Mais vous êtes un peu rattrapé par ce qui peut se passer le 10, par cette promesse d'événements un petit peu atypiques et de nouvelles formes de lutte portées par des gens qui peut-être n'ont pas envie d'une telle répression qu'a connue les Gilets jaunes et invente d'autres choses pour se faire entendre et toujours porté aussi par ce sentiment d'injustice. Ça a été un petit peu documenté, vraiment ce qui motive les luttes sociales aujourd'hui, ce mouvement presque insurrectionnel de la société, c'est vraiment l'injustice.
Ah oui, et puis c'est au-delà des injustices qui ont toujours été présentes, même si elles sont vraiment exacerbées, parce qu'en fait, depuis 2017, depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, on sait que les riches se sont ultra-enrichis, que les pauvres se sont appauvris. Il y a deux fois plus de SDF, par exemple, en France, c'est quand même pas rien. Donc en fait, le mal qu'ils nous font, il est encore plus visible. J'ai envie de dire, il l'a toujours été, mais là, on est vraiment, ça va loin. Donc il y a la perception d'injustice, et puis en fait, il y a aussi une sorte de fatigue, de lassitude et de constat qui est fait que les formes de lutte traditionnelles, quand je dis traditionnelles, c'est en fait celles qui sont mises en place depuis 20 ans, donc à savoir soit les élections pour un parti d'opposition, soit la manifestation, soit la journée de mobilisation dans un cadre établi, déclaré à l'avance, etc., il semblerait que ça ne produise pas de résultats. En tout cas, pas suffisant pour pouvoir...
Ça produit de l'échec, surtout. Les élections, on se les fait voler. Les manifestations, on se fait réprimer. Et les lois passent quand même par la force.
En fait, il y a deux événements, clairement, auxquels le livre fait référence. C'est 2023, 3 millions de personnes dans la rue, 90% des actifs qui sont contre une réforme des retraites injuste, des manifestations, des grèves, etc. Et rien ne se passe. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième date, c'est 2024, juillet 2024, des élections dont toute la classe médiatique nous explique qu'elles vont être le triomphe du Rassemblement national. Une alliance de gauche pas la plus radicale, pas la plus unie, pas la plus solide, mais tout de même gagne ces élections. Et rien ne change. En fait, on a le même gouvernement, composé notamment de ministres qui viennent de la droite. Et la droite, aux élections législatives, c'est 5% des voix. Et pourtant, on se retrouve avec Bruno Retailleau, qui est quasiment le Premier ministre de fait, en réalité, tellement il a une couverture médiatique. Donc, en fait, bah, t'as cette fatigue, vous avez cette fatigue de, bah, en fait, ces formes-là, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne suffit pas. Mmh. Et donc, le mouvement du 10, pour moi, est une tentative de réponse à ça, en disant, bah, peut-être qu'il faudrait augmenter l'intensité de notre réponse et utiliser des recours qui ne sont pas prévus par la bourgeoisie et auxquels la bourgeoisie ne nous incite pas. Donc, ouais, le livre, ça tombe très bien, hein, c'est sûr. Hein. Moi, le livre, il porte sur cette réflexion-là. Il se trouve que quelques semaines après que je l'ai terminé, il y a eu des annonces du budget ultra-violent de Bayrou, qu'à ce moment-là, nous, à Frustration, on a fait un édito qui a été absolument viral, qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?» Et quelques jours après, il y a eu l'annonce par un petit collectif inconnu d'une proposition de date pour tout bloquer. Et voilà où on en est. Et là, on est presque à la veille de ce mouvement. Et je crois qu'effectivement, c'est une tentative de réponse. Est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce qu'elle suffira? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est enfin sorti d'une routine à la fois confortable et inefficace qui n'était pas capable de mettre à l'emprise du capitalisme sur nos vies et surtout à son extension infinie. Donc c'est plutôt excitant.
On verra bien ce qui se passe, mais je voudrais qu'on reparle quand même un petit peu, parce que on est dans un contexte en France où vous évoquiez le budget Bayrou, et puis il y a tout ce qui passe là, vite fait, on ne sait pas encore, on enregistre cette émission lundi, et on sait, lundi 8, et on ne sait pas encore si des décrets pour doubler les franchises médicales, des décrets qui vraiment vont porter atteinte à la santé des gens, on ne sait pas encore si par voie réglementaire la santé des étrangers va être encore plus mise à mal avec une réduction encore du panier de soins déjà très minime de l'aide médicale d'État, mais la santé des plus fragiles, la santé de ceux qui ne peuvent pas avoir d'assurance privée ou de mutuelle et de surmutuelle est largement attaquée en France avec cette culpabilisation des malades qui rappelle quelque part le discours des assurances que vous évoquiez tout à l'heure aux États-Unis ou alors de n'importe quelle assurance en France et même je pense aux maladies professionnelles. Les gens se retrouvent quand ils ont respiré de l'amiante toute leur vie à être culpabilisés s'ils ont fumé 3 cigarettes dans leur vie. On a ce système delay, deny, defend, retarder, refuser, défendre, c'est-à-dire ne pas essayer de contrer une demande d'indemnisation ou une demande de remboursement de soins. Ça, c'est vraiment c'est la règle aux États-Unis pour la majeure partie de la population.
Oui, ça c'est important. On se rend pas compte. Enfin, je pense que si, hein, on le sait, mais c'est bien de
faut le rappeler. Il faut le rappeler.
Bah oui, parce qu'en fait c'est l'horizon quand même qui est rêvé par les macronistes. Et tu vois, vous voyez, il y a quelques jours, je regardais un podcast vidéo d'un influenceur de gauche américain, états-unien connu, et il discutait avec un autre et il disait mais pourquoi on ne mériterait pas, est-ce qu'on mérite moins que les Français? Et c'était marrant parce qu'en fait il parlait du système de santé en disant pourquoi nous on pourrait pas aussi avoir des soins gratuits. Alors quand je vois ça, je me dis ah bah oui, c'est sûr que pour eux c'est très différent, alors que pour nous on a l'impression qu'on est en train de le perdre. Mais donc c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Donc le fonctionnement, c'est que aux États-Unis vous avez et c'est nouveau, ça fait depuis à peu près les années 90 qu'il y a un système minimal de prise en charge de soins très graves, mais vraiment pour les gens très pauvres et de façon très conditionnée, et qui est vraiment une prise en charge minimale, donc le système Medicaid, mais pour tous les autres, il n'y a pas de prise en charge collective, ni obligatoire, ni équitablement répartie dans la population. Vous devez souscrire à une assurance. Cette assurance, souvent, vous y avez droit dans le cadre de votre emploi. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui choisit une compagnie d'assurance pour ses salariés, mais vous la perdez quand vous changez d'emploi. Donc c'est quand même déjà très compliqué. Cette assurance, vous la payez et elle vous coûte très cher. Ça peut être plusieurs centaines de dollars par mois. Donc c'est pas rien. Puis il y a autre chose qu'il faut dire pour comprendre à quel point c'est une arnaque totale, quoi. C'est-à-dire que ces sociétés d'assurance, donc qui sont des sociétés privées qui veulent faire du profit, elles ont un système de franchise qui fait qu'en fait, jusqu'à une certaine somme, elles ne vous remboursent pas. Donc en fait, les soins courants, vous les payez de votre poche. En fait, ça devient l'assurance commence à prendre en charge quand c'est bien plus grave ou plus coûteux. Mais là encore, selon votre assurance, il y a des choses qui ne vont pas être prises en charge. Par exemple, le dentaire, un peu comme en France d'ailleurs, n'est pas du tout bien pris en charge. Et puis ensuite, ça veut dire que quand vous êtes admis à l'hôpital, ce qu'on ne voit pas du tout dans les séries américaines, hein, parce que c'est fou comme dans les séries américaines, dès que les gens sont blessés ou dans les films, c'est pas grave parce qu'ils ont des super hôpitaux qui le prennent en charge avec des soignants adorables. Alors je ne sais pas si les soignants sont adorables ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il y a une facture. Et cette facture, vous allez l'envoyer à votre assurance et qui, comme n'importe quelle assurance, va évaluer si le remboursement est légitime ou pas. Et dans le cas d'United Healthcare, qui est la première assurance santé des États-Unis, ils font tout donc pour que, comme je le disais, le remboursement n'ait pas lieu. Pour ça, ils vont par exemple vous dire « vous n'avez pas été pris en charge dans le bon hôpital, cet hôpital il n'est pas conventionné par notre assurance, vous n'avez pas fait le bon parcours, et puis vous avez des antécédents médicaux qui font qu'on… » Voilà, vous avez effectivement, comme vous disiez tout à l'heure à propos des maladies professionnelles, il y a des facteurs de comorbidité qui font qu'en fait, votre mode de vie, il est en cause aussi, là où vous vivez. Et puis, pour dire, après le meurtre de Brian Thompson, la presse américaine et britannique a fait pas mal d'enquêtes finalement sur ce système-là. Donc ça a été quand même une conséquence positive de ce meurtre malgré tout. Hein. C'est que il y a une libération de la parole sur ce système-là. Et on a découvert que par exemple United Healthcare, ils avaient corrompu des aides-soignantes dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, pour faire signer des clauses de non-réanimation à leurs patients, donc âgés, aux patients United Healthcare. Pour faire en sorte que, ils signent une clause de non-réanimation, comme ça, ils ne sont pas pris en charge par les hôpitaux, et ça coûte moins cher à United Healthcare qui n'a pas à prendre en charge ces soins-là. Faut vous rendez compte quand même de la violence du processus, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui, dans une entreprise autour d'un bureau, choisissent des modalités qui leur permettent de choisir la mort de leurs assurés plutôt que la prise en charge. Parce que derrière, il y a une obsession qui est la rentabilité de ce système, qui est un véritable capitalisme médical, où on profite des malheurs des gens pour essayer de leur extorquer le plus d'argent possible, ou alors, quand on estime qu'ils vont coûter plus cher qu'ils vont apporter, dans le cas des personnes âgées, on va faire en sorte qu'ils meurent, quoi. Donc c'est ça le système de santé américain, et par conséquent, comme je disais tout à l'heure, il y a les gens qui meurent faute de soins, et on estime à 500 000 personnes par an de plus qui sont endettées pour des raisons médicales. C'est-à-dire que
on vend sa maison pour un cancer aux États-Unis.
Exactement, on hypothèque sa maison pour un cancer. Exactement, exactement. Et ce week-end, je parlais avec Fleur Breteau, qui est une activiste française qui a fondé le collectif Cancer Colère, donc qui vise à politiser le cancer, qui elle-même, elle en parle souvent, est atteinte d'un cancer du sein. Et elle disait, moi j'ai regardé combien ça coûtait un cancer du sein en soi à traiter, combien coûtait son traitement si elle est prise intégralement en charge par la Sécurité sociale française. Elle disait, ça coûte à peu près 140 000 euros. Et elle disait, aux États-Unis, il y a la moitié des femmes qui sont touchées par un cancer du sein, qui doivent s'endetter ou hypothéquer leur maison. Donc c'est quand même assez fou. Et c'est vrai que là, c'est incommensurable avec le système français qui, s'il est attaqué, c'est bien cet horizon-là qui est visé, on en est encore, heureusement, très loin.
Absolument. Mais ceci dit, il faut rester méfiant. D'ailleurs, je tiens à le signaler, vous dédiez ce livre à votre grand-mère, que le système de santé français, qui n'est pas parfait mais qui existe, vous a permis de côtoyer un peu plus longtemps que si elle avait vécu aux États-Unis.
C'est important. Ça me tenait à cœur de raconter ça. En plus, c'est quelqu'un dont j'étais très proche, que j'ai perdu récemment. Donc, ce livre est aussi un hommage tant qu'à faire. Hein. Moi, ma grand-mère, elle a eu un AVC, comme plein de gens, un parent. Et en fait, l'AVC, s'il n'y a pas une prise en charge rapide et qualitative, avec de la rééducation, etc., vous mourrez. C'est pas ce qui s'est passé dans le cas de ma grand-mère, et finalement, 10 ans de plus, elle a vécu 10 ans de plus, 10 ans de plus, c'est pas rien. pour elle comme pour ses proches. Et ces 10 ans, ils nous ont été offerts par l'assurance maladie. Et quand je dis offerts, bah, c'est pas offert, hein, c'est pas gratuit l'assurance maladie, c'est nous qui le payons collectivement, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et c'est ce système-là qui nous a permis d'avoir ça. Mais évidemment, ce que je raconte aussi, là on va dire c'est la partie enchantée, bah, c'est que comme tout le monde qui est aidant familial, bah, j'ai été aussi confronté avec ma mère au système de santé défaillant, particulièrement défaillant dans notre département, la Charente-Maritime, où on a des hôpitaux qui parfois ne peuvent plus fonctionner, ferment leurs urgences psychiatriques, pédiatriques, voire même les urgences générales. Et bah, quand vous envoyez votre proche âgé aux urgences et que vous ne pouvez plus la voir, et bien maintenant, de nos jours en France, qu'est-ce qu'on craint? Bah, que la personne elle soit laissée dans un brancard faute de moyens et qu'elle meure, parce que ça arrive.
Oui, donc ça arrive.
Je raconte aussi ces moments d'angoisse-là. Et le sentiment de trahison qu'on ressent à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est pas le, voilà, c'est pas ce qu'on nous a, c'est pas ce pourquoi on a payé, et au-delà de ça, c'est pas cette société-là dans laquelle on a envie de vivre, quoi. Mmh. Et cette société-là, elle nous a été créée par des gouvernements qui ont tout fait pour déstabiliser l'assurance maladie, et notamment un des grands facteurs de déstabilisation, c'est d'exonérer les employeurs de cotisations patronales, les cotisations patronales finançant largement, enfin en tout cas grandement la sécurité sociale, et ben quand vous les exonérez de ça, vous êtes obligé de mettre en place des plans d'économie parce que c'est le contribuable qui doit payer la différence avec sa TVA, avec son impôt sur le revenu, et c'est l'État qui doit faire des économies pour faire en sorte que les entreprises privées puissent continuer à payer le moins possible, hein, entreprises privées et derrière leurs actionnaires. Donc c'est ça qu'on est en train de subir en France. Ce système, il est constamment attaqué aussi dans le discours. Et donc moi, c'était important aussi dans ce livre que je reparle de ce système et de sa supériorité éthique, morale, économique, tout ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, la sécurité sociale, c'est à la fois un système extrêmement juste, mais c'est aussi un système extrêmement efficace, puisque il y a des économistes qui ont montré, par exemple, que en France, si vous comparez les coûts de gestion, vraiment ce que ça coûte de faire tourner le système des complémentaires santé privées, par exemple. Donc mutuelle ou assurance, ce qu'on paye, ce qui nous permet de prendre en charge, ce qui n'est pas pris en charge par la Sécu, et la Sécu elle-même, et eh ben la Sécu c'est beaucoup moins cher. En
alors fait. La Sécu c'est 11% et les moyennes des mutuelles c'est autour de 20 et 30%. Donc effectivement il y a une grosse différence et on se demande légitimement pourquoi on n'est pas dans le tout Sécu.
Le tout Sécu c'est essentiel et c'est intéressant de préciser pourquoi. C'est-à-dire que la Sécu c'est un système qui n'a pas à dégager de profit pour des actionnaires, qui n'a pas à payer des consultants à la con, qui n'a pas à payer des publicitaires pour nous abreuver de pubs insupportables pour la Matmut ou que sais-je. Et alors que les complémentaires privées, elles ont, y a le coût du capital. Et ce coût du capital, on l'économise quand on n'a pas à rémunérer le capital.
Voilà. Et même quand ça s'appelle mutuelle, il y a quand même un coût bien supérieur à une assurance publique issue du Conseil national de la résistance et créée dans un pays exsangue à la sortie de la guerre. Donc ça a été vraiment un choix politique. Et pour le coup, à l'époque, on pouvait parler de rapport de force politique syndicale qui a permis la naissance de la sécurité sociale, la sociale, qui comprend bien sûr l'assurance maladie, mais aussi les retraites, mais aussi les allocations familiales, etc. Et juste pour préciser ce que vous avez dit tout à l'heure, Nicolas Framont, effectivement, il y a toute cette question du salaire brut. La sécurité sociale, elle était financée par le salaire brut, avait des cotisations qui étaient fléchées. Et je crois que c'est sous François Hollande qu'on a défléché les cotisations destinées au financement de la sécurité sociale. Et donc, du coup, c'est devenu une sorte de... C'est l'État qui finance le budget de la sécurité sociale à partir de ce qu'il collecte. C'est plus du tout les salariés et leurs employeurs. Enfin, voilà, c'est plus du tout le travail qui flèche une partie vers la sécurité sociale. Et ça, c'était tout à fait prévisible. Déjà, on l'avait prédit. Je pense à Gérard Filoche, en l'occurrence, qui l'avait prédit. Il avait dit, vous allez voir, on va absolument vous parler de déficit maintenant tout le temps. Et puis, on va toujours piocher dans les finances pour essayer de combler un trou qu'on aura créé et puis de diminuer le panier de soins et les remboursements, ce qui est le cas aujourd'hui.
Absolument. En fait, il y a eu plusieurs évolutions, mais il y a cette évolution-là. Sous Hollande, effectivement, on s'est mis à faire en sorte qu'on puisse En fait, concrètement, hein, ce qui s'est passé, ce qui justifiait ça, c'est que comme on a exonéré les entreprises de leurs cotisations, eh ben, il fallait bien que l'État paye la différence. Donc, d'où ces enveloppes en fait entre deux budgets qui sont normalement totalement différents. Et puis, ceux qui ont vraiment ouvert le bal, c'est aussi les socialistes. Hein, c'est sous Michel Rocard, c'est la création de la CSG, la contribution sociale généralisée. C'est un impôt qui finance la sécurité sociale, alors que le deal, c'était que la sécurité sociale soit financée par les cotisations sociales, par le travail, par la création de valeur et la création de richesse. Donc en fait, on a brisé ces logiques-là qui étaient des logiques et anticapitalistes, enfin communistes, quoi. C'est-à-dire avec la richesse qu'on va créer, on va en collectiviser une partie. Et puis une logique liée quand même à la place du travail dans tout ça. Maintenant, même les retraités, depuis Macron, ils doivent contribuer à la sécurité sociale via la CSG. Alors que ce sont des gens qui avaient cotisé toute leur vie. Enfin, du coup, ça crée. En fait, ils ont réussi à créer à la fois. Moi, ce que je trouve un peu tragique, c'est que c'est devenu complètement illisible. Et puis, c'est devenu injuste parce qu'en fait, plus rien n'est proportionné. Donc, tout le monde a l'impression de se faire avoir, alors même que, en fait, à la base, c'est un très bon système. Mais c'est un très bon système qui fonctionne si on a un grand sentiment de justice là-dedans. Et en fait, le sentiment de justice, il a été brisé par le fait que c'est devenu illisible et qu'effectivement, il y a tellement de dérogations, d'exceptions, tellement de budgets qui sont mis les uns dans les autres qu'on n'y comprend plus rien. Et c'est un vrai souci.
Oui, et après ça, il y a aussi tout un jeu politique de stigmatisation, qui des étrangers, qui des pauvres et des assistés, qui de ceci et de cela, pour faire croire aux citoyens français qu'ils payent plus que celui qui est dans une situation un tout petit peu moins favorable que lui, et surtout pas regarder ce qui se passe beaucoup, beaucoup plus haut, en fait. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'est développé dans le discours politique, bien sûr à droite, bien sûr à l'extrême droite, et aussi parfois à gauche, qui est assez délétère. Et qui ne va pas dans le sens de la préservation d'un système tel qu'il a été conçu.
Oui, c'est la cata ce discours. Hein. Je pense qu'on est vraiment d'accord là-dessus. Mais je vis des choses en ce moment qui me rendent folle, quoi. C'est-à-dire par exemple l'idée que les arrêts maladie sont abusifs. Je suis aussi formateur en santé au travail. Je sais que dans les entreprises, avec le système de management totalitaire qui est mis en place dans certains groupes, en fait, les gens ne prennent plus leurs arrêts maladie parce qu'ils ont peur d'être mal vus. Donc, en fait, le problème des arrêts maladie, c'est qu'on n'en prend pas assez. C'est pas qu'on en prend trop. Et en fait, aller laisser entendre que l'arrêt maladie, c'est des vacances gratos, c'est non seulement complètement faux, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Parce que du coup, il y a un phénomène de stigmatisation qui s'opère. Et franchement, les gens qui sont malades du travail, et il y en a de plus en plus, notamment malades psychologiquement du travail, si on veut que leur sort s'améliore, si en plus on les culpabilise, qu'on les contrôle, qu'on les surveille, qu'ils sont obligés de rester chez eux, c'est sûr que leur burn-out, il va pas s'arranger, quoi. Donc moi, ça m'inquiète énormément. Et puis évidemment, l'autre chose que je trouve délirant, parce que c'est de la fausse information, c'est la stigmatisation de l'aide médicale aux étrangers, l'aide médicale d'État. Donc là, ça ne fait pas partie du budget de la Sécu, ça fait partie du budget de l'État. C'est très peu de choses, c'est très peu de moyens, c'est très peu de demandes, parce que la plupart des étrangers qui arrivent, vu comment ils sont traités par les flics, ils risquent pas de se dire qu'on peut les aider au niveau de leur santé. Mais il y a un concours politique pour dire des conneries sur ce système-là, je pèse mes mots. François Bayrou disait encore récemment, il a dit quelque chose de faux, il a dit la balnéothérapie, c'est pris en charge par l'AME.
C'est faux.
Donc ça, c'est un discours qui... Alors déjà, en plus la balnéothérapie, il se trouve que c'est une thérapie comme une autre, il n'y a pas de honte.
Non, mais il se trouve que il s'agit de certains exercices faits en piscine dans le cadre d'une rééducation après une fracture, en fait. Et ça n'a rien à voir avec de la balnéothérapie, on n'est pas au spa.
Exactement, il a créé sciemment de la confusion autour de ça pour alimenter cette idée que moi je paye des impôts, puis pendant ce temps... Quoi, il y a des réfugiés qui vont aller dans des piscines à bulles. C'est ça, hein, le sous-texte.
Oui, c'est le sous-texte, c'est celui-là. Et c'est exactement celui du Rassemblement National qui parlait d'opérations esthétiques pour un pauvre mec qui s'était fait coller les oreilles avec sans doute associé pour que ça puisse être prescrit des tels complexes que ça rendait totalement nécessaire cette opération. Enfin voilà, on est vraiment... Et puis dans des cas, sans doute, il a choisi un cas où on a prescrit une rééducation en piscine sur je ne sais combien. Enfin voilà, c'est vraiment c'est une méthode absolument détestable et contestable.
Et oui, et moi je pense que face à ça, en fait, faut pas être sur la défensive. Là, vous voyez, j'étais un peu sur la défensive finalement quand j'ai dit mais non, ils vont pas. dans des balnéothérapies. En fait, faut être offensif sur la santé. Faut dire, eh ben, on a de quoi être fier. Si on est dans un pays qui offre des soins gratuits à des gens qui n'en ont pas, si on est dans un pays qui sauve des vies, parce que collectivement, on a décidé que toute vie valait le coup d'être sauvée, eh ben, c'est très bien. Et moi, je suis fier de payer pour ça, par exemple. Mmh. Ce discours, évidemment, qui serait plus entendable si n'importe qui, de tout milieu social, avait l'impression de pouvoir accéder à des soins de qualité. En fait, si ce ressentiment il fonctionne bien, c'est que par ailleurs, il y a des gens qui arrivent avec un enfant malade, j'ai encore vu récemment, arrivent à 6h du matin aux urgences, et à midi, ils sont toujours pas pris en charge avec leur enfant qui se tord de douleur. C'est ça la réalité aussi. Donc c'est pour ça que la question de qui bénéficie de quoi, elle est aussi sensible. Moi, je dirais toujours, allez voir de quoi bénéficient les riches. Les riches n'attendent jamais aux urgences. Ils ont des cliniques pour eux, où on les prend en charge, où ils ont une chambre particulière, etc. etc. Et ce sont ces riches-là qui ont pris les décisions qui font qu'on attend 6h, 7h aux urgences. Donc, encore une fois, regardons en haut, parce que c'est de là que viennent nos problèmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Mmh. Et il y a une expression dans le livre sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est « il n'y a pas de réelle personne en jeu ». Ça, c'est quelque chose qui a été prononcé par des gens qui prennent des décisions délétères.
Alors, en fait, c'est cet exemple-là... Alors, je ne sais pas si ça a été prononcé en vrai, parce que c'est dans une série à succès, hein, qui s'appelle la série Succession. C'est une série américaine de HBO, qui est une série qui est très, très intéressante, parce que ça suit la vie d'une famille richissime qui est inspirée de la famille Murdoch. La famille Murdoch, c'est une famille qui possède le groupe Fox News aux États-Unis. Moi, cette série, elle est très bien écrite, très habile, et donc je cite ce passage où... En gros, ils imaginent que face à une recrudescence d'accidents, parce qu'ils ont une chaîne de paquebots de croisière qui vise des prostituées, des travailleurs migrants, etc. Bon, en fait, il y a une politique d'entreprise qui dit quand ce genre d'accident arrive, on l'étouffe parce que c'est pas des vraies personnes. Donc, ils ont même créé un acronyme qui s'appelle Not Real Person Involved. Et donc, en fait, c'est dans une série, mais en fait, je sais que c'est vrai. Que par ailleurs, évidemment, que le capitalisme et ses décideurs, c'est des gens qui hiérarchisent en permanence les vies. C'est-à-dire qu'il y a des vies qui comptent et des vies qui ne comptent pas.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que les étrangers qui ne se font pas soigner, ce n'est pas des vraies personnes. Les Palestiniens qu'on tue par centaines de milliers aujourd'hui, ce ne sont pas des vraies personnes. Voilà. Il y a plein de gens qui ne sont pas des personnes, en fait.
Évidemment, je parle en conclusion du génocide à Gaza parce que je pense que là, c'est un cap franchi dans la déshumanisation des personnes par l'élite capitaliste, puisqu'encore aujourd'hui, en France, vous avez des journalistes, des éditorialistes qui trouvent que c'est normal de tuer des gens à Gaza, de tuer des femmes, des enfants, des hommes. Alors parfois, ils disent les femmes et les enfants, peut-être pas, mais les hommes, c'est très peu remis.
Non, mais on dit même les femmes et les enfants, de toute façon, ce sont des boucliers humains.
Oui, ce sont des boucliers humains. Donc en fait, en disant ça, on les déshumanise.
Absolument.
Ce sont des animaux, c'est pareil. Et d'ailleurs, les ministres du gouvernement de Netanyahou n'hésitent pas à parler d'animaux.
Absolument, oui.
Donc ça, c'est le niveau zéro. Et puis ensuite, on monte petit à petit. Bon, les réfugiés qui traversent la Méditerranée, il y a des fois où, s'il y a des photos suffisamment choquantes, la presse s'en est emparée. Mais le reste du temps, ce sont des vies complètement dispensables. Et puis ensuite, à l'échelle de la société française, la vie des SDF, la vie des personnes qui ont des troubles psychiques, la vie, il y a des vies qui valent moins que d'autres. La vie des jeunes racisés des banlieues, en fait, ils peuvent être tués par un policier. Et c'est pas bien grave. Enfin, en fait, c'est comme si la peine de mort théoriquement n'existait pas en France, mais elle existe à Gaza, elle existe dans les quartiers populaires, etc. Enfin voilà, je pense que ceux qui nous écoutent savent très bien de quoi je parle. Mais en fait, c'est important de rappeler cet établissement de hiérarchie humaine pour comprendre que le capitalisme est un système vraiment fondamentalement anti-humaniste, alors même que ses dirigeants passent leur temps à dire que c'est des grands humanistes. Ils adorent dire ça, et que par conséquent. Voilà, en fait, la conclusion logique auquel il faut aboutir, c'est que vu que ces gens dénient une partie de notre humanité, pour certains, toute notre humanité pour d'autres, etc., on ne peut pas attendre d'eux qu'ils prennent soin de nous. Voilà. Et donc, en fait, il me semble qu'on a été trop gentils, au sens où on a trop cru dans un système dont les dirigeants avaient mal compris qu'ils nous faisaient du mal. Donc, un des exemples de ça, moi, je trouve que c'est très présent dans la lutte écologiste, c'est que souvent, toute une partie des influenceurs écologistes, c'est des gens qui disent « on va sensibiliser les dirigeants à, on va faire des cabinets de conseil qui vont leur montrer que, on va aller dans les boîtes du CAC 40 leur montrer pourquoi, on va faire des fresques du climat, que sais-je, que sais-je ». Non, en fait, À partir du moment où le capitalisme déshumanise, fait des classements de vie, etc.
Et puis surtout est basé sur l'exploitation des hommes et de la biosphère. Donc bah de toute façon...
S'il fait cette hiérarchie et si idéologiquement il classe les vies, c'est bien parce que derrière, il y a des objectifs d'accumulation de profits, que la mécanique, c'est l'accumulation, c'est l'exploitation et c'est l'extension de la marchandisation à tout. Donc c'est sûr que quand on fonctionne comme ça, on ne peut pas espérer humaniser la population, respecter l'environnement. Ce n'est pas possible. Donc en fait, au bout d'un moment, voilà, mon livre, c'est un appel à ça. C'est aussi à lâcher l'affaire en termes de supplique. Voilà, faut passer de la supplique à l'action et au rapport de force, parce que sinon, on va se faire bouffer, quoi.
Ouais, il faut faire peur. Ouais. Voilà, mais vraiment, hein, d'ailleurs, les gilets jaunes ont fait peur et je crois qu'ils s'en souviennent encore en haut lieu. Est-ce qu'ils sont en train de barricader pour après-demain, mercredi, je rappelle qu'on enregistre cette émission le lundi, eh bien, ça traduit aussi cette terreur qu'ils ont de l'inconnu. Et puis, je pense qu'il y a quand même au fond de leur inconscient, à tous ceux qui prennent ces décisions délétères, l'idée que quand même, ils font du mal. Ça passe, mais le ça, ils savent quand même un tout petit peu ce que c'est. Et donc, ils ont quand même très peur de se le prendre dans la figure. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve juste après Nicolas Framont pour parler, bien sûr, de Saint-Luigi, puis aussi évoquer les mouvements de résistance que vous et d'action forte que vous évoquez dans le livre aux États-Unis comme en France. C'est finalement, Luigi, c'est peut-être pas le premier. On en parle juste après.
Mais quand chanterons-nous le temps des cerises? Ohé partisans, c'est l'alarme.
Avec ou sans papier, solidaire, on résiste motivé pour la lutte finale.
Motivé.
Car on entend déjà la révolte qui gronde de Paris jusqu'à Nouméa. Des gars à la revanche, c'est la fin de leur monde. Si l'on tire ensemble, il tombera.
Allez, vamos, on dit à Moyala. La lutte est belle, ces chansons.
Campagne dans une rue de Paname, on emmerde le Front National.
On emmerde le Front National.
Allez, vamos, on dit à Moyala. La lutte est belle, ces chansons éternelles. Allez, même s'ils ne veulent pas, on est là. Amis ou camarades, continue le combat. Ça ira, ça ira. On est là, on est là. Regarde pas en bas, c'est là-haut qu'on nous voit. Ça ira, ça ira. On est là, on est là. Regarde pas en bas, c'est là-haut.
Là-haut. Tout là-haut. Yama. On est tous chez nous.
Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Face au nom, un monde meilleur.
Gilets jaunes et communes, des corons au canut. On chante l'honneur des travailleurs.
On l'appellera révolution permanente si les loups rentrent dans Paris.
Crions pour éviter les semaines sanglantes.
Siamo tutti antifascisti.
Allez, vamos, andiamo, yalla. La lutte est belle, ces chansons éternelles.
Front National, la vieillesse aussi, puis c'est tout.
Et voilà, c'était Saïra, nouvelle version, sous-titrée La lutte est belle, une chanson collégiale réenregistrée dans un CD publié pour les 130 ans de la CGT, figurez-vous, Nicolas Framont. On est avec vous pour parler de Saint-Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme, livre qui sort dans une collection Frustration au lien qui libère, qui sort là, tout début septembre. Alors, ce que je voudrais qu'on évoque avec vous maintenant, c'est quelque chose que j'ai redécouvert, enfin, allez, découvert, j'étais absolument nulle en histoire des luttes, en lisant votre livre, et c'était pas inutile, c'est l'histoire des industriels Workers of the World. Je parle très mal anglais en plus du reste, les fameux Wobblies qui au début du 20e siècle ont eu des actions très fortes et assez beaucoup plus radicales, j'ose pas dire violentes, parce que comme vous le rappelez au début de ce livre, la violence c'est vraiment contre les personnes, c'est pas contre les objets. On donne toutes nos condoléances aux familles des vitrines. Faut pas confondre violence et dégradation, ce qui est habilement et très souvent, ou trop souvent fait un peu partout. Je tenais à faire cette différence ici encore une fois. Voilà, c'est ces travailleurs américains qui faisaient peur au patronat, en fait.
Oui, et avant d'en parler, je voudrais créditer quand même le livre qui fait que je me suis intéressé à cette histoire et auquel je dois tout, et qui est quand même un des rares livres en français sur ce mouvement. C'est un livre qui s'appelle Wobblies et Hobo Kornbleu. Et c'est aux éditions L'Insomniac. Franchement, ce livre, il est super en plus dedans. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, si c'est toujours édité comme ça. Moi, quand je l'avais acheté, il y avait un CD dedans avec 21 chansons américaines dissidentes. Donc, c'est quand même chouette. Et comme on est dans une émission où il y a beaucoup de chouette musique, je voulais mentionner ça. Dans ce livre, en fait, il y a deux choses. Déjà, un récit de ce mouvement. Donc, il n'a pas duré si longtemps. On parle d'un mouvement du début du XXe siècle qui, notamment, a finalement été durement réprimé après la Première Guerre mondiale. Parce qu'en fait, la Première Guerre mondiale, hein, ça a été quand même une aubaine pour les capitalistes, parce qu'à la fois, ils ont quand même envoyé une partie de la classe ouvrière, mais en plus, ils ont pu prendre des lois d'exception, parce que c'est ça, les contextes de guerre, ça permet de prendre des lois d'exception. Donc en fait, beaucoup de ces dirigeants Wobblies ou d'activistes Wobblies, ils ont subi la peine de mort, en fait, soi-disant, pour sédition, etc. Et ça a été rendu possible par la Première Guerre mondiale. Donc moi, ce que j'aime bien dans ce mouvement, c'est qu'à la fois il est d'un type particulier et il a une imagerie très forte. Dans le livre, il y a beaucoup de reproductions de leurs affiches et ça m'a beaucoup inspiré, évidemment, pour la couverture du livre Saint-Luigi qui a été faite, soit dit en passant, par Farton Bink, qui est la directrice artistique de Frustration. Et donc ce mouvement, c'est un mouvement qui est particulier parce que à une époque où le syndicalisme américain, il était majoritairement très corporatiste, c'est-à-dire l'idée c'était un syndicat pour chaque branche, pas de syndicat général, et puis des syndicats qui étaient pas très politiques. Donc c'était vraiment des syndicats qui étaient intégrés à la vie des entreprises ou des groupes, et donc voilà, ils étaient bien sages, bien polis. Et l'Industrial Worker of the World a été fondé avec cette idée que déjà ça allait être ce qu'on appellerait de nos jours interprofessionnel, mais disons, voilà, on s'occupe de tout le monde, quelle que soit la corporation. Et puis aussi, ils ont une spécificité, c'est qu'ils ont syndiqué, et d'ailleurs, les gens se syndiquaient pas vraiment, il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de bureau, etc. C'était très bricolé, très punk, moi c'est ça que j'aime bien. Et puis, en fait, c'est les populations qu'ils ont réussi à mettre en branle, quoi, c'est beaucoup les travailleurs saisonniers, donc les fameux hobos. Il y a eu beaucoup de chansons sur les hobos aux États-Unis, donc en fait c'est des gens qui allaient d'un endroit à l'autre en fonction des récoltes, etc., des travailleurs pauvres, des travailleurs migrants de l'intérieur, et qui étaient évidemment, du coup, comme beaucoup de travailleurs migrants, pas du tout pris en compte par les organisations traditionnelles. Et donc les Industrial Workers of the World ont fait ça, mais ils ont aussi fait ça dans l'industrie textile, auprès des ouvrières. Donc ils ont obtenu quand même des succès importants. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, cet exemple historique, il donne des idées, parce qu'à la fois, ce qu'on observe, c'est les EWW, donc c'est une faible institutionnalisation, c'est-à-dire que c'était pas une grosse machine bureaucratique, c'était faisait partie des Wobblies, ceux qui s'en réclamaient. C'était des gens qui étaient très bons pour aller approcher tout type de travailleurs, parce qu'eux-mêmes en faisaient partie. Donc souvent, ils faisaient des petits discours. C'est aussi des gens qui ont mis en place toute une contre-culture faite de chansons, d'affiches, comme je le disais. Donc, en fait, je trouve que quand on suit l'histoire des IWW, on voit en fait ce qu'est le syndicalisme vraiment à la base de la base. Mmh. Je crois que parfois, on a tendance à oublier ce que ça peut être, parce que le syndicalisme, pour nous, c'est quelque chose de très établi, avec des drapeaux, un folklore,
une hiérarchie.
Une hiérarchie, ah, voilà. Bah, voilà, moi je pense que ce dont on parle jamais assez sur le problème du syndicalisme contemporain, c'est que c'est des hiérarchies, avec des niveaux, avec des carrières. Et quand je dis carrière, c'est pas que c'est des gens, ils vont jamais gagner des 100 et des 1000, mais tout de même, avec des rapports de pouvoir, avec des ordres qui montent et qui descendent, et surtout qui descendent. Et c'était pas du tout le cas des IWW, où voilà, vous aviez quelques leaders nationaux connus, mais qui étaient des ouvriers avant tout, et puis ensuite une grande liberté d'action.
Donc c'était beaucoup vraiment... d'action directe en fait.
Voilà, et donc l'action directe, voilà, ça, j'en viens à l'action directe. Donc l'action directe, c'est un terme, parfois on oublie un peu sa signification première, parce que comme il y a un groupe d'extrême gauche qui s'est appelé Action Directe en France, et qui a été connu pour commettre des assassinats politiques, en fait quand on pense Action Directe en France, on pense pas mal à ça. En fait, Action Directe, au début du XXe siècle, ça voulait dire, bah, t'agis directement en te passant d'intermédiaire, donc ni parti, ni syndicat institutionnalisé. C'est un problème, t'agis collectivement évidemment pour te protéger, mais on n'y va pas par quatre chemins, quoi. Et ça, cet esprit-là, je dis esprit punk, alors le punk n'existait pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire on n'attend pas les consignes, on bricole, on essaye, et il y a cette spontanéité qui ne veut pas dire spontanéité, ça ne veut pas dire pas d'organisation, parce qu'on voit que c'est des gens très organisés, qui avaient une culture commune, qui avaient des règles communes, qui étaient quand même stratégiques, qui ne faisaient pas n'importe quoi, qui ne mettaient pas les gens en difficulté, qui mettaient en place de l'entraide, donc énormément de... Voilà, je pense que les grandes grèves aux États-Unis comme en France, il faut s'imaginer que ce n'est pas simplement des gens qui font grève, c'est des gens qui mettent en place des cantines populaires, c'est les enfants qui sont tous gardés ensemble par des gens dédiés à ça, etc., etc. C'est des villes qui font, c'est des ouvriers qui se mettent en grève pour soutenir la grève d'à côté. Enfin, tout ça, c'était très organisé, mais oui, c'était plus spontané au sens où ça ne passait pas par... Bon, bah, pour le dire très, très clairement, hein, une intersyndicale. Hein. L'intersyndicale, je pense, en France, c'est vraiment, pour moi, le symbole de la bureaucratisation syndicale. Quand je dis bureaucratisation syndicale, c'est pas dire que c'est des méchants, c'est qu'il y a des tas de mécanismes qui sont mis en place, qui sont venus alourdir l'action, quoi. C'est-à-dire que, bah, pour agir en vue du... Enfin, c'est ce qui s'est passé cet été, hein. Bayrou fait des annonces ultra-violentes vers le 15 juillet. Et ben, l'action directe, ça a été qu'en quelques jours, à base d'éditos de médias indépendants, de pages sur les réseaux sociaux et tout, et ben, il y a la date du 10, elle a été annoncée et tout le monde s'en est emparé. Et pendant ce temps, les grands syndicats, Compignon sur Rue, ils ont dit, bon, eh ben, on n'est pas content, mais on se réunira le 30 août, enfin, un truc comme ça. Et puis le 30 août, ils ont dit, bah voilà, ça va pas, mais on proposera une date le 18 septembre. Et rien qu'en termes de temporalité, on voit déjà qu'ils ont perdu 2 mois. Alors qu'en fait, la lutte des classes, c'est aussi une histoire de rapidité. C'est est-ce que tu es capable de réagir directement aux réponses de l'adversaire? Est-ce que tu peux le prendre de court, etc. Et le mouvement du 10 septembre, qui est vraiment pour moi un mouvement qui est dans l'esprit oublise, parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas attendu. Il n'y a pas eu d'hiérarchie, il y a zéro chef. Chacun tente son truc de son côté, tout en essayant de respecter une culture commune, avec une esthétique commune qui existe déjà. Et ça a produit des effets. Et franchement, ça a déjà produit des effets, puisque François Bayrou, pas plus tard que samedi 6 septembre, il a dit sur France Télévisions, je l'ai vu, c'était incroyable, il a dit, si je renonce, parce qu'on peut se dire renonce, c'est parce que je me suis rendu compte que ce qui se passait dans le pays et parmi en fait le mouvement du 10 septembre m'empêcherait de mener ce programme. Et ce programme, c'était un programme qui allait plus loin dans la destruction du système de santé. Donc en fait, le mouvement du 10 septembre, il a déjà produit des effets.
Alors que... Bien sûr, on peut même se demander, étant donné la chronologie des événements, si l'auto-démission de... enfin voilà, le fait que Bayrou annonce quasiment qu'il parte, puisqu'il demande une confiance que de fait il n'a pas, l'a-t-il fait de son propre chef ou a-t-il été invité à le faire? Est-ce que ce serait pas un fusible qu'on a tenté de faire sauter pour... empêcher naïvement les mobilisations du 10 septembre? C'est vrai que la question à un moment pouvait se poser.
Oui, je comprends. En fait, je crois qu'un des messages de mon livre Saint-Luigi, c'est aussi ne surestimons pas l'adversaire non plus. Voilà, faut pas le sous-estimer, mais faut pas le surestimer. Au sens où la bourgeoisie, ça reste peu de gens, ça reste des gens pas très futés, qui sont en concurrence les uns avec les autres, et on a toujours tendance à leur prêter des pions machiavéliques. Donc là, tu vois, la version machiavélique, alors je suis pas complètement, c'est effectivement de dire, en fait, l'autodémission de Bayrou, c'est un nouveau, c'est une nouvelle entourloupe de Macron pour désamorcer le mouvement du 10. Mais alors, si c'est le cas, reconnaissons qu'ils ont déjà merdé, oui. Puisqu'en fait, ça fait un mois que l'autodémission est annoncée, et les services de renseignement n'arrêtent pas de dire dans la presse, et la presse elle-même le dit, en fait, ça va être énorme. Là, on parle de, apparemment, en un week-end, il y a eu 12 000 personnes dans des assemblées générales en France. Alors 12 000, c'est pas grand-chose en soi par rapport à la population, mais 12 000 personnes dans des assemblées générales lancées par juste des groupes d'anonymes pour faire des actions radicales.
Non, puis là, on n'est pas juste pour, on n'est pas à Place de la République à Paris. C'est-à-dire qu'on est partout. C'est ça.
On est dans le moindre patelin.
Mais oui.
Moi, je vis dans une petite ville. Nous, on est au taquet sur le 10 septembre depuis juillet. Et c'est ça qui va faire la force du mouvement. Et je pense que c'est ça qui le rend aussi effrayant. Parce qu'en fait, un mouvement en Place de la République à Paris, c'est connu pour les autorités. On a même l'impression que la place, elle est faite pour ça. C'est comme une manif qui se termine Place de la Nation. C'est des espaces parfaitement lisibles pour la police, pour la répression, pour les ministres de l'Intérieur. Voilà. Et puis c'est loin des lieux de pouvoir, tant qu'à faire. Voilà. Et ben là, ça va pas être ça. Dans la moindre ville et moindre village, tous les gens qui sont prêts d'axes routiers ou de zones de logistique, ils ont l'air déterminés à agir. Donc voilà pourquoi le parallèle avec l'IWW peut être fait. C'est cet esprit rebelle, non hiérarchique.
Créatif.
Créatif, voilà. Grande créativité. On essaye. On n'a pas de dogme. C'est non dogmatique, en fait. Les gens du 10 septembre, dont d'ailleurs c'est difficile de les caractériser, mais tout. Cette masse de gens, c'est des gens qui sont fermés à aucune forme. Ils disent pas « la grève, ça marche pas », ils disent pas... alors, ils disent un peu « les manifs, ça marche pas », c'est vrai.
Ils disent aussi beaucoup « les manifs, c'est dangereux », et parce qu'ils le savent pour beaucoup dans leur chair.
Bah, carrément. Bah, voilà, oui. En fait, aussi, ça sort pas de nulle part. Hein. Nous aussi, on apprend, hein, la bourgeoisie, elle agit de façon dynamique, mais nous aussi, on agit de façon dynamique. Et en fait, le 10 septembre, c'est aussi le résultat de l'histoire sociale des années 2000. Mmh. C'est des grands mouvements sociaux, parce qu'en fait, malgré tout, hein, on est quand même, depuis le début des années 2000, on a des grands mouvements sociaux en France tous les 2 ou 3 ans. Donc en fait, on a le temps d'apprendre, y compris de nos erreurs. Donc c'est aussi ça, c'est le résultat de toutes ces expériences-là.
Mmh. Juste, là on parle d'une action collective, d'actions collectives qui ont lieu au début du XXe siècle aux États-Unis, mais on a beau, enfin en tout cas Luigi, il est accusé d'être un terroriste, comme l'a été, et vous faites plusieurs fois allusion à cet homme qui est mort il y a 2 ans en prison dans des conditions atroces, qui était celui qui se faisait, enfin qui avait été qualifié d'unabomber, qui a justifié la plus longue, la plus coûteuse traque par la police américaine. C'est quelqu'un qui, depuis la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90, a posé des bombes, a tué peu de gens, mais il en a tué quelques-uns quand même, et avec un manifeste qui a été publié d'ailleurs, hein, et qui voilà, qui était, lui, si on fait le rapprochement entre les deux, c'est que lui aussi agissait de manière totalement individuelle, puisqu'il vivait comme un ermite dans la forêt. C'était quelqu'un qui avait côtoyé le système, qui avait été dans une grande université, qui avait été professeur, etc., et qui avait quitté ce système et qui avait tenté de détruire les représentants de ce qu'il estimait le plus néfaste dans le système.
Mmh. Bah, en fait, oui, la filiation, elle est même explicite, puisque le suspect, Luigi Mangione, une de ses activités connues sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de traces de lui, il n'y a pas beaucoup de traces de ce qu'il pense, mais un des matériaux dont on dispose, c'est un commentaire, une recension, une revue de lecture qu'il a faite sur un site de critique de livres du manifeste de Unabomber, et où dans lequel la critique, elle est d'ailleurs assez, moi je la trouve mesurée, au sens où il dit, bon, bah, évidemment que sur le plan moral, ce qu'il a fait se discute, mais il a cette phrase, il dit « quand toutes ces formes de communication sont rompues, la violence est la seule possible ». Donc en fait, sa filiation, elle est quand même assez explicite. Et il lui ressemble, puisque Luigi Mangione, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu plutôt aisé, a fait des études, occupé un emploi dans le développement qui était qui était plutôt prestigieux. Donc lui aussi, il est un peu de l'intérieur. Lui aussi, il semblerait avoir agi seul. Et lui aussi, d'ailleurs, c'est pas un idéologue marxiste. C'est quelqu'un qui a des influences politiques diverses, qu'emprunte autant à la gauche anticapitaliste, je dirais, que à la droite individuelle. Je crois que, et en ça, ces deux personnages se ressemblent beaucoup.
Absolument. C'est assez frappant. Moi, j'y ai pensé tout de suite, étant très intéressée par Una Bomber depuis longtemps. Et effectivement, c'est assez frappant. Et ce qui est aussi frappant, c'est bon. Alors pour alors je sais pas s'il y a un j'entends des bips. Il y a peut-être un double appel, mais je ne sais pas. Ce qui est assez frappant, c'est que l'un et l'autre ont aussi un grief personnel. Alors on apprend, et ça a été peut-être on sait pas trop hein. Pour Luigi Mangione, mais qu'il aurait eu un grief avec une assurance de santé lui-même, et pour Ted, j'ai oublié son nom, qui finit en ski, Una Bomber, donc ouais. Son vrai nom, Kravitsky, je ne sais plus.
J'ai oublié aussi.
Voilà, je devrais, mais j'ai mal pris mes notes. Donc lui, il a été contacté par les services secrets américains, et puis il a été testé, on lui a fait passer des tests horribles. Enfin voilà, il a aussi ce grief en plus contre le système qui a fait qu'il est, enfin qui peut expliquer en partie un passage à l'acte, s'il y a eu passage à l'acte pour mentionner, bien sûr. Donc oui, il y a ça aussi qui les relie. C'est aussi à ce côté non pas vengeance, mais prise de conscience qui amène à une action.
Alors sur Mangione, je suis en tout cas je suis plus réservé parce que il semblerait que le premier narratif hein, autour de son acte, ça a été de dire, la police, et ça c'est la police new-yorkaise qui a dit, oui apparemment, il publiait sur les réseaux sociaux, il avait publié une fois une photo d'une radio de son dos parce qu'il y a eu des problèmes de dos. Certains de ses amis ont dit oui, il était en grande souffrance. Donc en fait, il y a eu un peu cette quête de trouver une raison. Et souvent, et ça c'est pas moi qui le note, c'est Claire Touzard dans son livre qui s'appelle Folie et résistance, qui est sorti ce printemps, super livre. Elle dit elle constate que souvent en fait les rebelles, on essaie de leur trouver des traumatismes individuels qui expliqueraient leur action.
Ouais, surtout les dépolitiser quoi.
Et voilà, pour la dépolitiser, c'est-à-dire dire en fait oui, alors vous avez l'impression que le motif est politique, mais en fait, c'est quelqu'un qui souffrait atrocement, qui était qui a eu des griefs personnels, et quelque part c'est une vengeance personnelle comme dans n'importe quel autre crime. Et ça, c'est quelque chose qu'elle repère cette constante un peu pour tout le monde. Et il semblerait que la version Luigi était en souffrance aurait été un petit peu montée en épingle, donc je serais prudent par rapport à ça, même si, bien sûr, que par ailleurs, et ça je le dis aussi, notre rapport à la rébellion, voilà, on n'est jamais purement des gens politiques au sens collectif, on ne fait pas que ça que pour les autres. Souvent, les rebelles sont aussi des gens qui, dans leur chair, ont ressenti l'injustice, l'inanité du système. Voilà, je pense que on a tous une histoire, on a tous, bon, de toute façon, on vit tous dans ce système-là. Je pense qu'on éprouve dans nos chairs à quel point il peut être frustrant, source de souffrance, d'ennui et de tristesse, quoi. Ça, c'est ça, certain.
J'aime beaucoup la conclusion de votre livre, cette citation de l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardon, de 1793, premier texte approuvé par référendum dans l'histoire de France. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ça a été inscrit à un moment, alors très vite effacé, hein, mais dans la Constitution française.
Oui, alors c'est important de dire très vite effacé parce que d'ailleurs c'est une Constitution qui n'a jamais été mise en œuvre. C'est vraiment dans cette période la plus avancée de la Révolution française, mais qui a été gâchée par la terreur et le fait que les révolutionnaires se sont quand même entretués. Donc en fait, ça n'a pas été appliqué. Et puis, comme je le dis, en fait, ça n'aurait pas pu être appliqué. Le principe d'un régime fixe, en tout cas républicain, bourgeois, etc., c'est toujours de ne proposer des recours contre lui qui soient indolores pour lui, quoi.
Ouais.
Donc en fait, là, cette règle, quelque part, elle ne pouvait pas convenir même à l'existence même d'un État, parce que le principe des États, c'est de vouloir perdurer dans le temps. Et donc, un État ne peut pas encourager l'insurrection. Au contraire, un État a toujours besoin de réprimer. Et c'est valable pour les États capitalistes, comme ça l'a été pour les États dits communiste. Mmh. Donc, mais en fait, si je dis ça, c'est pas pour décourager l'insurrection, au contraire, c'est pour dire, bah oui, c'est normal qu'il n'y ait pas de recours dolore qui soit proposé pour le système, puisque c'est lui qui fixe les règles, c'est la bourgeoisie qui fixe les règles, c'est pourquoi la désobéissance civile est forcément un passage obligé quand on veut changer l'équilibre des forces ou les institutions, c'est un passage obligé. En fait, les recours légaux, ils sont intéressants, je dis pas qu'on peut rien faire avec, mais ils sont là pour ne pas changer la substance du régime dans lequel on vit. Mmh. Et vraiment, moi je pose la question à la fin du livre, hein, est-ce que vraiment vous pensez, quand vous voyez tout ce qui se passe, que on va pouvoir changer les choses et s'en sortir sans passer par la désobéissance civile? Moi je crois vraiment que non, ça c'est certain.
Oui, ça c'est certain. Après ça, la forme, tout le monde n'a pas forcément envie de se sacrifier, parce que c'est un petit peu ce qu'a fait Luigi Mangione, enfin s'il l'a fait. Enfin voilà, quand on va commettre un meurtre et qu'on se fait attraper, on paye très très cher.
Enfin, ah bah oui. Voilà. Non, mais ça, de toute façon, faut pas prendre mon livre comme une apologie de l'assassinat politique.
On est bien d'accord.
Voilà, bah parce qu'en fait, mais pas simplement parce que c'est pas légal de le dire, mais parce que je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des actions qui déjà, sur le plan philosophique ou moral, sont extrêmement contestables, difficilement justifiables. Moi, je pense pas. Moi, je suis contre la peine de mort sous toutes ses formes, même Absolument. Dans le contexte révolutionnaire. Et je dirais que faut pas déroger à cette règle, parce qu'en fait, à partir du moment où on y déroge, souvent la dérogation s'installe. Hein. C'est toujours comme ça. Et puis ensuite. Même du point de vue de l'efficacité, moi, la figure de Luigi Mangione, en tout cas, le crime qui lui est associé, je dis bien qu'il a produit des effets, mais je pense pas c'est ce genre d'acte qui pourra nous débarrasser du capitalisme. Moi, je crois dans l'action collective, je crois dans le blocage, dans la grève, dans le rapport de force, et puis par ailleurs, deuxième chose, effectivement, c'est une action qui est trop coûteuse pour celles et ceux qui la commettent. Luigi Mangione, et c'est aussi pour ça qu'il y a une fascination, il est... il est inculpé pour terrorisme. Alors, soit dit en passant, aux États-Unis, il faut se rendre compte que les tueurs de masse dans les écoles, ils ne sont pas inculpés pour terrorisme, hein, pas tous.
Mais par contre, la dame qui a passé un coup de fil en disant à son assurance « Vous êtes le prochain après l'assassinat du fameux PDG », elle a été inculpée pour terrorisme.
Bah voilà, donc en fait, on voit bien, je pense que si vous écoutez cette émission, vous savez que l'accusation de terrorisme, elle est à géométrie variable et qu'elle est liée à des intérêts qui soient géopolitiques, géostratégiques, etc., et de classe. Mais là, il faut savoir que Luigi Mangione risque la peine de mort, puisqu'il est occupé pour terrorisme, alors même qu'il a été arrêté, alors que le crime a été commis dans un État, l'État de New York, qui n'applique pas la peine de mort. Donc c'est... la peine de mort, elle a été recherchée par la bourgeoisie américaine. Ce serait évidemment un acte ignoble, injuste, etc. Mais ça dit long aussi sur les sacrifices. Et moi, j'encourage toujours les gens qui pratiquent de la désobéissance civile ou même des grèves, des manifestations, d'être quand même vigilants pour eux-mêmes, pour les autres. On est là pour se sauver tous, pas pour se sacrifier.
Et comme on le rappelle souvent, on peut gagner puisqu'on est quand même plus nombreux. Et si on croit qu'un homme ou une femme vaut un homme ou une femme, quel que soit son niveau de vie et sa puissance financière, on se dit qu'on peut gagner en étant juste plus nombreux.
Bah oui, moi je crois vraiment que c'est ça notre avantage stratégique. On est plus nombreux et on est celles et ceux qui faisons tourner la machine. Donc ça c'était vrai dans les années 20 et puis c'est vrai de nos jours.
Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup Nicolas Framont. Je rappelle le titre de votre livre, Saint Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme, un livre qui tombe à point nommé quelques jours avant une mobilisation annoncée, un livre de réflexion sur la violence politique, sur les mobilisations aussi, sur l'individualisme, et puis bien sûr sur aussi toute l'injustice d'un système de santé qu'on nous promet hélas en France, ou en tout cas vers lequel on tendrait à tendre, qui provoque des morts et par lequel, une fois, quelqu'un a répondu par une mort. Merci beaucoup, Nicolas Framont.
Merci Eugénie, merci beaucoup.
À très bientôt, on se quitte en musique.
Il y a eu Gattaz avant moi.
Il y a eu Célière avant lui.
Le gratin du patronat. Les cadors de l'industrie.
Nous on en a plein les fesses d'être matraqués par l'État
qui accapare nos richesses pour engraisser les parias.
Je chanterai 10 fois, 100 fois,
j'hurlerai pendant des mois.
Je
je crierai sur tous les toits,
entre les huîtres et le foie gras.
Assister, assister, tu m'auras pas.
En France, y a bien trop de normes, soyons plus libertariens.
Et entamons des réformes pour secouer les bons à rien.
Vivement que grâce à l'IA, y ait plus besoin de salariés.
Hâte de voir les syndicats chialer sur Tchat CGT. Je chanterai 10 fois, 100 fois.
J'hurlerai pendant des mois.
Je crierai sur tous les toits,
au volant de ma Tesla.
Syndiqué, syndiqué, tu m'auras pas.
Manifestons, camarades, pour défendre notre pèse. Et formons des barricades avec nos nobles Louis XVI.
Ah, tu peux trembler, smicard.
On va te bouffer tout cru.
Ouais, c'est bientôt le grand soir.
Le MEDEF est dans la rue.
CGT, t'es foutu. Le MEDEF est dans la rue. CGT, t'es foutu. Le MEDEF est dans la rue. So, so, solidarité avec Patrick Pouyanné. So, so, solidarité avec Vincent Bolloré.
On est là, on est là, on est là, on est là. Même si Bin ne le veut pas, nous on est là. Des actionnaires et pour qu'il y ait moins de fonctionnaires, même si Bill ne le veut pas, nous on est là.
Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'héritiers.
Rasti, si tu savais, tac-naki, Rasti, si tu savais, tac-naki, où on se la met.
Vous n'aurez pas notre peau, nos bonus, nos retraites chapeaux.
Car le marché triomphera et Reagan ressuscitera.
Mais en attendant, on chante bien nos shows dans notre holding.
Cette goguette du CAC 40
que t'écoutes dans ton camping.
Je chanterai 10 fois, 100 fois.
J'hurlerai pendant des mois.
Je crierai sur tous les toits,
sur mon yacht au Panama.
CGT, CGT, tu m'auras pas.
Et voilà, c'était encore un titre extrait du CD qui est édité donc pour les 130 ans de la CGT. Ça s'appelle Que la lutte est belle et c'était une chanson faite par les goguettes en trio, mais à quatre, un inédit qui vaut son petit pesant. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Liberté sur Parole. Excellente journée à vous tous.